L'air des paroles que le Christ a prononcées qui ne laissent pas de nous surprendre. Il y en a qui sont empreintes d'une telle autorité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pas du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Personne n'a jamais tenu semblable langage. Où il faut être Dieu. Or, Jésus vient d'affirmer une fois de plus son étroite relation d'intimité avec le Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et c'est à ce titre qu'il est en droit de lancer cet appel émouvant: Venez à moi. Jésus vient de parler à des hommes dont il connaît, dont il comprend le véritable état d'âme. Lui que personne ne comprenait, que personne ne veut comprendre, il comprend la vraie condition des hommes et il en a pitié. Il les sait fatigués et chargés. Il agit ici en médecin des âmes, dont il a diagnostiqué la maladie mortelle. Il connaît leurs peines, leurs chagrins, leurs angoisses, leurs tortures peut-être. Il sait quelles sont les conséquences du péché, les désillusions cruelles, le remords qui ronge sans répit, le désespoir. Même en ceux qui apparemment sont insouciants, qui vivent sans contrainte, qui ne semblent ni chargés ni fatigués, même en cela, ils décèlent, derrière leurs masques, des fardeaux et des fatigues oppressantes, faits d'insatisfaction, d'appréhension et d'obsession peut-être devant la pensée de la mort. En jetant les yeux sur la masse des hommes, ils les voient s'agitant, s'inquiétant et se tourmentant pour beaucoup de choses inutiles, qui leur sont devenues indispensables parce qu'ils en sont les esclaves. La voix du Christ traverse les siècles et atteint notre temps qui est loin d'être meilleur. Les hommes sont toujours restés essentiellement les mêmes. C'est le cadre qui a changé. C'est pourquoi l'Évangile demeure actuel, car il est un message pour l'homme intérieur. Ce qui rend l'état de cet homme misérable, c'est qu'en tout temps, il a délaissé, puis dédaigné, puis rejeté les éléments essentiels à sa vraie vie. Les hommes ont été le plus souvent les artisans de leur propre malheur, les auteurs de leur propre destruction. Vous avez déjà entendu sans doute ou lu ce petit poème que je cite volontiers aujourd'hui pour exposer les causes de l'inquiétude individuelle et de la tension qui atteint les collectivités devant les menaces et les maux de toutes sortes. Je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis votre chef et vous ne m'obéissez pas, je suis votre Dieu, et vous ne me priez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. C'est ainsi que le Christ constate la folie des hommes. Il les voit, privés de quiétude, et obstinément rivés à la terre. C'est pour cela qu'il les appelle à son repos, à sa paix. C'est pour cela qu'il les rappelle à leur bon sens. Lui seul peut les aider à rejeter le joug du monde. Jésus emploie ici un mot qui évoque chez ses auditeurs une image familière et forte, un joug. C'est une lourde pièce de bois que l'on place sur l'échine des bœufs pour les atteler et pour les contraindre à marcher dans une direction voulue par le maître. Les anciens guerriers, après la victoire, disposaient trois lances en forme de portique et chaque vaincu devait passer sous ce portique en se courbant. Il passait ainsi symboliquement sous le joug de ses vainqueurs, dont il devait dorénavant subir la loi. Les Écritures nous disent que Satan est le Dieu du siècle. Jésus dit qu'il est le prince de ce monde. Sa loi est dure. Sa puissance de séduction est effrayante. Son joug est lourd à porter. Il oppresse des milliers et des millions d'esclaves. Il écrase, il avilit, il humilie ceux qui le portent. Nombreux sont ceux qui se précipitent vers la seule délivrance que leur désespoir leur laisse entrevoir, le suicide. Ne pensons pas que ce soit là une exagération. Il y a en France en moyenne 7200 suicides par an. Il y en a 10 000 si l'on ajoute les suicides camouflés en accident ou en mort naturelle. Il y en a 25 000 si l'on compte les suicides manqués. C'est-à-dire qu'à chaque heure qui passe, 3 personnes en France tentent de se donner la mort et une au moins y parvient. Voilà à quelle horrible extrémité l'homme est quelquefois réduit lorsqu'il a été trompé par les fausses espérances du monde. La tragédie de l'homme aura donc toujours été cet empressement à vivre pour lui-même, sans accorder une place à son Créateur et à son Dieu. Cette attitude conduit au désastre. Le Christ offre une solution, la seule possible. Il propose un remède, le seul qui soit efficace. Venez à moi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le repos qu'il nous offre n'est pas une cessation béate de toute activité, au contraire, c'est par une mobilisation de toutes nos forces vives au service de Dieu que nous atteindrons la tranquillité d'âme dont nous avons besoin pour vivre. Jésus nous propose d'échanger le joug du monde contre le sien, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est toute la différence qui existe entre la servitude et le service. Il nous demande de nous mettre à son école, au lieu de vivre selon les vaines philosophies humaines. Dans le sermon sur la montagne, il répète souvent « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez donc pas. Inquiétez-vous plutôt premièrement du royaume et des affaires de Dieu. » Nous voyons bien que Jésus ne cherche pas à abolir notre tendance à la préoccupation. Sa thérapeutique, si l'on peut dire, consiste à changer en nous l'objet de notre préoccupation. Autrement dit, inquiétez-vous des choses qui en valent la peine. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît aussitôt. Reprenant les paroles d'Ésaïe, l'apôtre Pierre déclare « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est là un état d'âme vers lequel nous devons tendre, car la paix, la quiétude, la joie, c'est d'abord un état d'âme, lequel ne se crée et ne se maintient que par la foi. Solution bien dérisoire, penseront certains angoissés. Mais c'est pourtant le seul remède qui puisse sauver l'homme, et il a fait ses preuves. C'est la diminution de la foi et sa disparition qui constitue pour une nation une véritable catastrophe. Ceci ne veut pas dire que par la foi, nous pouvons vivre en marge de tout souci et de tout malheur. Cela ne veut pas dire que nous ne serons jamais fatigués et chargés. Le mal existe, et il existera jusqu'à la fin. On ne peut pas le supprimer, mais on peut le neutraliser quant à son influence sur nous. Par la foi, l'attitude du croyant est toujours orientée vers Dieu en toutes circonstances. Et toute circonstance prend en Dieu sa signification et sa valeur réelle, que ce soit un malheur ou une joie, que ce soit l'injustice dont on peut être victime, que ce soit la guerre, la menace de guerre, la maladie ou même la mort. Le croyant sait que rien de tout cela ne peut le séparer de l'amour de Dieu, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la souffrance ne parvient pas à entamer la paix intérieure du croyant. Au contraire, à l'école du Christ, la souffrance injustement subie est même une source de rayonnement et de joie intérieure parce qu'elle unit le croyant à celui qui a souffert et qui est mort pour lui. Si la maison est posée sur des fondations précaires, si les briques sont mal assemblées et la toiture branlante, l'hiver, le vent, la tempête seront autant de causes d'inquiétude et d'angoisse. Mais si la maison est solidement fondée sur celui qui a posé les fondements du monde, le vent peut hurler et la tempête peut faire rage au dehors. Au dedans, c'est le calme dans la conscience, c'est la paix dans le cœur, c'est la sérénité. Il est évident que cet état d'âme ne se réalise pas du jour au lendemain. Le repos du cœur inquiet est un but à atteindre progressivement, avec volonté, avec confiance, avec foi. Nous sommes avant tout des hommes de peu de foi, capable de trembler dans la tempête avec le Seigneur à nos côtés. Pourquoi ? Peut-être parce que nous nous sommes contentés d'entendre l'invitation du Christ sans faire un mouvement dans sa direction. Or, comment vient-on à lui ? Comment peut-on répondre à son appel ? Il n'y a qu'un moyen. C'est ce que la Bible appelle la conversion. La conversion n'implique pas seulement un changement de croyance ou une simple modification de notre philosophie de la vie. Selon le Christ, se convertir, c'est devenir une nouvelle créature. Comme le fer peut se convertir en acier, le Christ a le pouvoir de transformer un homme par la puissance de sa parole. Les différents degrés qui mènent au Christ s'appellent la foi, le repentir et le baptême. C'est ainsi que l'on entre en communion avec lui. Le baptême est l'acte initial et solennel qui exprime une résolution. C'est un acte de foi. C'est un acte d'engagement par lequel le croyant s'associe par la foi à la mort et à la résurrection du Christ. C'est pourquoi le baptême doit être pris par un être conscient de la signification profonde de cet acte. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. La bénédiction immédiate, c'est le pardon et l'oubli de tout le mal qui est en nous. Le vrai repos ne commence-t-il pas par cette assurance que Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ ? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, a dit Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.